Chapitre 49. Callan à ses côtés, Richard guida Nietzsche, les deux mordecites, Verna, Chase et Rachel, le long d'un couloir qui conduisait à la tour de la Slife. Ici, le plâtre des murs reflétait mieux la lumière des lampes, rendant le trajet plus agréable. De temps en temps, le petit groupe passait devant un guéridon où trônait un vase ou une sculpture. Les pièces dans ce secteur étaient pour la plupart de petites bibliothèques ou des salles de lecture équipées d'un mobilier confortable. Quelques-unes plongées dans l'obscurité semblaient abriter de noirs secrets. En marchant, Cassia et Val dégustaient chacune une tranche de rôti froid. Curieuses, elles regardaient partout et ralentissaient le pas lorsqu'une tapisserie ou un tableau retenait leur attention. En digne mordecite, elle ne semblait jamais surprise par ce qu'elle voyait, y compris quand le groupe passa devant une vitrine où étaient exposés des artefacts en os. Des objets investis d'une puissante magie, se souvint Richard. Même si elle n'était pas vraiment folle de la magie, les mordecites s'arrêtèrent devant la vitrine et étudièrent son contenu. Venant du palais du peuple, encore récemment le fief de Darkenral, Cassia et Val ne devaient pas être impressionnées par la forteresse. En revanche, elles s'intéressaient à tout ce que les lieux pouvaient avoir d'exotique à leurs yeux, de la configuration particulière des dalles du sol au style des œuvres d'art, en quelque sorte. Dans ce couloir, plusieurs champs de force barraient le passage aux intrus. Habituée à recourir au service d'une magicienne pour les franchir, Chase ne paraissait pas gênée. Richard, en revanche, dans un passé très récent, son don lui permettait de se jouer de tous les sorts de protection, y compris ceux qui recouraient à la magie soustractive. Privé de sa magie, il était contraint à de grands détours pour contourner les champs les plus actifs et pour les autres, il lui fallait l'assistance de Nietzsche. Comme dans son enfance, quand elle arpentait les couloirs de la forteresse, Callan avait réussi à franchir presque toutes les protections. Mais on abordait à présent une zone où elle ne s'était jamais aventurée, même au cours de sa formation d'inquisitrice. Les champs de force les plus puissants lui barrèrent le chemin. Dans cette zone, on trouvait beaucoup d'artefacts hautement dangereux pour les profanes et même pour les détenteurs du don. Nietzsche aida l'inquisitrice à avancer sur ce terrain périlleux. « Vous en voulez encore ?» demanda Verna en tendant une tranche de viande emballée aux deux jeunes gens. « Non, merci, » répondit Callan. « J'ai le ventre plein. »« Pareil pour moi, » annonça Richard. Il avait ingéré juste ce qu'il faudrait pour reconstituer ses forces. À part ça, il n'avait pas d'appétit. La migraine ne devait rien arranger, supposa-t-il. La souillure faisait son œuvre et ça n'avait rien d'inattendu. Comme ses deux amis, Nietzsche n'avait plus faim, trop de soucis en tête sans aucun doute. Cassia et Val acceptèrent la viande. Inquiètes ou non, quand elles étaient affamées, leur voracité n'avait pas de limite, comme celle de Zed à l'époque bénie où il était encore de ce monde. « Prenez ça aussi, » dit Rachel au mordecite. « C'est le dessert. »«
Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Cassia en acceptant les deux petits paquets que lui tendait la jeune fille. « Des gâteaux au miel. » Cette annonce sembla ravir Cassia. « Une mordecite gourmande ?»« Je les ai fait ce matin. Emma, la femme de Chase, m'apprend à cuisiner. »
« Un talent très utile pour une jeune fille, »
dit Cassia en mâchant sa viande. Au passage, elle inspecta une pièce latérale où s'alignaient des tables et des bancs. Rachel dégaina un de ses couteaux et le prit par la pointe pour le faire tourner dans l'air et le rattraper. « Chase, lui, m'enseigne le maniement des armes. » Cassia eut un sourire complice.
« Un talent encore plus utile. Tu es une fille selon mon cœur. »« Elle peut couper ta viande pour toi si tu veux. » dit Chase, rayonnant de fierté paternelle.
« Non, non, je te crois sur parole, » répondit Cassia. « Je tiens trop à mes doigts. »
Le couloir déboula sur un palier, à l'intérieur d'une tour circulaire d'une bonne centaine de pieds de haut. Au sommet, quelques meurtrières laissant entrer un peu de lumière, mais pas assez pour qu'on y voie vraiment bien. Au pied de la tour, les eaux de pluie formaient une mare croupie à l'odeur désagréable. Un escalier en colimaçon conduisait aux différents niveaux. Richard et ses compagnons descendirent jusqu'au dernier et s'engagèrent sur une passerelle circulaire qui dominait le réservoir d'eau d'où des pierres émergeaient par endroits. Se tenant au garde-fou, Cassia et Val se penchèrent pour sonder l'onde noire. Une salamandre perchée sur une grosse pierre les regarda avec une étrange intensité. Pendant tout le trajet, une question avait tourné en boucle dans l'esprit de Richard. Pourquoi y avait-il un sanctuaire des âmes dans les catacombes? Et que signifiaient toutes ces tentures couvertes de symboles? Pour indiquer où il voulait aller, le sourcier désigna le grand trou qui béait sur la paroi intérieure de la tour. L'entrée du fief de Colo, comme Richard l'appelait par le passé. Des années plus tôt, après qu'une explosion eût soufflé la porte, il avait découvert dans la salle les restes d'un sorcier mort en accomplissant sa mission, surveiller le puits de la Slif afin d'empêcher un ennemi de s'infiltrer dans la forteresse. Piégé dans la pièce, Colo avait fini par y mourir. En laissant en héritage ses journaux intimes, où Richard avait puisé de précieuses informations sur les grandes guerres. Hélas, ces textes étaient loin d'exposer la situation dans toute sa gravité. Sans doute parce que Colo ignorait la vérité, comme beaucoup de gens de son époque pouvaient-on supposer. Inspectant l'orifice carbonisé, Cassia et Val entrèrent en premier dans la salle circulaire où le petit bureau et la chaise de Colo étaient encore à leur emplacement d'origine. Contrairement à la salle de Lucie, celle de la Slif était grande, 60 bons pieds de diamètre, et son plafond voûté se trouvait à peu près à la même distance du sol. Le puits aussi était beaucoup plus grand. Parce qu'elle se déplaçait dans toutes les directions possibles, contrairement à sa collègue, la Slif devait avoir besoin de plus de volume. Alors que Lucie avait à l'évidence été créée pour une mission unique, la Slif devait être un moyen de transport très fréquemment utilisé par les sorciers. Richard approcha du muret et fut très surpris de voir le visage de vif argent de la Slif émerger du puits. Étrangement humain, les traits de la créature reflétaient la lumière des lampes, comme si elle était un miroir vivant. « Maître, je suis contente de te revoir. Tu veux voyager ?»«
Oui, » répondit Richard, étonné de n'avoir pas eu besoin de réveiller la Slif.
« Mais que fais-tu ici ? Pourquoi n'es-tu pas en train de dormir avec ton âme ?»
La créature plissa le front.
« J'étais avec elle en paix, mais je t'ai vu dans le monde des esprits. » « Nous t'avons tous vu alors que les démons noirs te poursuivaient. Il y avait encore de la vie en toi, et j'ai pensé que tu n'étais pas fait pour le monde des ténèbres. Inquiète pour toi, je suis venu ici avec l'intention de t'aider si tu parvenais à franchir le voile dans l'autre sens. »
« Une très bonne initiative, Slif.
Nous avons besoin de toi. Il nous faut gagner le palais du peuple aussi rapidement que possible. »
« Je connais cet endroit. » « Viens, nous allons voyager et tu seras satisfait. »
Le ton de la dernière phrase, intime et séducteur, mit Richard mal à l'aise, comme à chaque fois.
« Nous sommes venus avec Lucie, » dit Callan d'un ton bougon. « Tu la connais ?»
L'inquisitrice détestait le jeu que la créature aimait jouer avec son mari.
« Pourquoi l'avoir choisie, maître ? Elle te satisfait plus que moi. »
Richard secoua vivement la tête. Ce n'était pas le moment de subir une crise de jalousie. La Slif seule pouvait les conduire au palais et il ne fallait surtout pas la vexer.
Posant une main sur le bras de sa femme, le sourcier lui fit comprendre qu'elle devait reculer un peu.
« Non, ça n'avait rien d'un choix. Nous étions coincés à Stroïza. Tu connais cet endroit ?»
La Slif sembla puiser dans sa mémoire.
« Non, je n'ai jamais entendu ce nom. » « Il me serait impossible d'y aller. »«
Tu vois, nous n'avions pas d'autre solution que Lucie pour te rejoindre. »
La Slif se détendit. Ravi d'avoir appliqué la bonne tactique, Richard lui sourit.
« Tu veux voyager en moi ? Tu en es sûr ?»«
Certain, oui. Nous conduiras-tu au palais du peuple ?»
Voyager avec Lucie n'était pas très satisfaisant, mais la récompense était de te trouver au bout du chemin.
« Pour que je te satisfasse ?»«
C'est ça, oui. En réalité, voyager avec Lucie fut un cauchemar. J'ai détesté ça, mais l'idée de te revoir m'a aidé à prendre mon mal en patience. »
Du coin de l'œil, Richard vit que Callan ne faisait rien pour cacher son agacement. Sans comprendre comment elle pouvait être jalouse de la créature de vif argent, il ne pouvait nier qu'elle l'était et pas qu'un peu.
« Tu es venu ici parce que tu préfères voyager en moi ?»
Richard fit coulisser l'épée de vérité dans son fourreau.
« Avec Lucie, j'ai emporté cette arme. Elle m'a dit que c'était possible. »
La Slif se pencha pour mieux voir l'épée.
« Maître, je te l'ai déjà dit. cette arme n'est pas compatible avec la vie quand tu es en moi. Si tu l'emportes, tu mourras, vous mourrez tous. »
Je me souviens de tout ça. Mais les choses ont changé. Tu m'as vu dans le royaume des morts. Selon Lucie, parce que la mort est en moi, je peux voyager avec mon arme sans courir aucun risque.
L'autre, cette Lucie, elle t'a laissé venir en elle avec ton épée?
Oui, à cause de la souillure qui est en moi. Comme je suis déjà mort, ça ne risque plus de me tuer. Tu comprends?
Pensive et plutôt sceptique, la Slif tendit un bras de vif argent et prit entre des doigts délicats le visage du sourcier. Le genre de caresse qu'une femme aurait pu prodiguer à son amant. Le bras se retira lentement, se fondant de nouveau au vif argent du puits.
« Maître, tu es mourant !»
Callan avança et prit le bras de Richard.
« Peux-tu l'aider, Slif? Puisque tu appartiens à moitié au royaume des morts, ne peux-tu pas le libérer du mal et exiler la souillure dans le domaine du gardien où elle sera à sa place ?»
La Slif regarda tristement l'inquisitrice.
« Désolé, mais je peux seulement voyager. Es-tu au moins capable de dire combien de temps il reste à Richard ?»« Non, ça c'est impossible. Mais je sens que la mort le possède déjà. Ses forces vitales l'abandonnent. »«
Ça, je le sais aussi, » dit Richard. « Donc, puisque je suis quasiment mort, l'épée ne peut plus me tuer. N'est-ce pas logique ?»
La Slif réfléchit avant de répondre.
« Ce n'est pas bien, maître. » « Mais tu dis vrai. L'arme ne te tuera pas parce que tu es déjà mort. Comme elle est liée à toi, concentrée sur la souillure qui te ronge, elle ne fera pas de mal aux autres voyageurs. »«
Dans ce cas, » dit Richard, « je vais l'emporter parce que ça me satisfera. »
Un bras émergea du vif argent comme pour dissuader le sourcier d'approcher.
« Maître, ce n'est pas si simple. »
« Bien sûr que si, puisque je l'ai déjà fait. »
« Parce que cette Lucie se fichait de ce qui t'arrivait. Ne t'a-t-elle pas dit ce qui arrivera quand tu voyageras avec cette arme sur toi ?»«
Si, elle m'a parlé. Selon moi, ça me videra un peu plus de mes forces. »«
C'est ça, et il ne t'en reste plus beaucoup. La vie s'écoule de toi, maître, et la mort la remplace. Cet objet est conçu pour semer la mort. » Pendant le voyage, il absorbera une partie de ta vie et ta dernière heure sonnera plus tôt que prévu.
Richard eut un geste nonchalant.
Je sais, et je veux l'emporter quand même, parce que ça me satisfait.
Voyager ainsi avec toi ne me satisfera pas,
dit la Slif d'un ton presque menaçant.
Tu l'as déjà fait une fois, c'est vrai, mais il ne reste plus beaucoup de vie en toi. Avant que nous arrivions au palais du peuple, il ne t'en restera presque plus, et la mort aura au contraire gagné du terrain. Tu ne seras pas mort, mais ça ne tardera pas, dès que tu seras sorti de moi.
Le débat est clos, Richard, dit Callan. Tu ne peux pas emporter cette arme. Nous devons seulement atteindre le palais.
Callan se pencha vers son mari, ses yeux verts brillants de colère.
Où il te restera à vaincre sous la canne? Comment un moribond réussira-t-il cet exploit? Si tu échoues, quel espoir aurons-nous encore?
Sous la canne?
Répéta la Slif.
Tu combats l'empereur sous la canne?
Oui. Tu le connais?
La tête de vif argent recula vers le bord le plus éloigné du muret.
Bien sûr. Il régnait à l'époque où on m'a créé. C'est un démon. Après sa mort, il a arpenté le monde où mon âme se repose. Il fait partie du domaine du gardien désormais. Comment peut-il être de retour en ce monde?
J'ai peur qu'il ait retraversé le voile, dit Richard sans juger utile d'entrer dans les détails. À présent, il est en chemin pour le palais du peuple. S'il s'en empare, il déchira le voile et nous disparaîtrons tous, les vivants comme les esprits. C'est pour ça que je veux aller au palais. Il faut que je renvoie sous la canne chez le gardien.
Nous allons voyager,
dit la Slif d'un ton pressant.
« Et tu seras satisfait. »«
Si je peux emporter mon arme. »«
Non, tu dois la laisser, »
siffla Callan entre ses dents serrées.
« Si tu es mort ou trop faible pour combattre, ça ne fera du bien à personne. Nous n'avons pas fait tout ça pour que tu jettes ta vie aux orties et les nôtres avec, à cause d'une arme magique. Laisse-la ici. Elle n'est pas très importante dans tout ça. »«
Et si Sulakan lance contre nous ses cadavres ranimés ? L'épée les taille en pièces. Sans elle, que ferais-je contre des hordes de tueurs morts ?
Callan se pencha davantage, un incendie de colère dans les yeux.
« Si tu renvoies Soulacane dans le royaume des morts, les morts animés ne pourront plus rien contre nous. Nous devons voyager, et pour ça il faut que tu abandonnes ton épée. »«
Maître, tu devrais écouter le sage conseil de la mère inquisitrice, » dit Laslif. « Elle aussi, elle veut seulement te satisfaire. Fais ce qu'elle dit. »«
Merci de ton aide, Slif, » dit Callan d'un ton rien moins amical.
« Vous avez raison toutes les deux. »
soupira Richard après une courte réflexion. Il retira le baudrier et appuya le fourreau contre le muret.
« Personne ne touchera à ton arme, Richard, » dit Chase. « Je m'en porte garant. Nul n'entrera ici. Alors sois tranquille, il n'arrivera rien à ta lame. »«
Quand tout sera fini, » ajouta Rachel, « tu viendras la chercher. Nous serons ravis de vous revoir tous les cinq et de passer du temps avec vous. »
Richard aurait voulu être aussi confiant que la jeune fille. Même si c'était loin d'être le cas, il lui sourit. Puis il grimpa sur le muret et aida ses compagnes à le rejoindre. Avant qu'il plonge dans le vif argent, Verna leva une main pour attirer son attention.
« Richard, si ça tourne mal, la grâce nous conduira tous dans le monde du repos éternel. Tu feras de ton mieux, nous le savons. Mais si tu devais échouer, nous serons tous réunis dans l'autre monde. »
Le sourcier secoua la tête.
« Non, nous ne serons pas réunis. »«
Que veux-tu dire ?»«
En cas de défaite, il n'y aura pas de survivants. Ni ici, ni chez le gardien. »«
Slif, nous voulons voyager. S'il te plaît, conduis-nous au palais du peuple. »«
Viens avec moi, maître, et tu seras satisfait. »
Tous les voyageurs se prirent par la main.
« Comme avec Lucie, ne retenez pas votre respiration, surtout. Essayons de ne pas nous lâcher afin de rester groupés. »
Malgré leur malaise, les deux mordecites acquiescèrent. Conscient de l'urgence de la situation, Richard n'ajouta rien. Avec ses compagnes, il plongea dans le vif argent.